France Inter.
La différence.
Bon après-midi sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Votre attention s'il vous plaît, Dominique Strauss-Kahn mangera ce soir des brocolis. Bon appétit.
Camille de Paris, j'ai habité au Japon quelques années et j'avais beaucoup de mal à parler d'Hiroshima aux jeunes japonais de ma génération. Pour eux, c'était oublié, terminé. Ils ne connaissaient Hiroshima que par son équipe de baseball. Et lorsque certains avaient entendu parler de la bombe, c'était pour être fasciné par sa technologie. Mais en revenant en France et en écoutant tes émissions, j'ai vraiment l'impression que c'est cet oubli de ce qui s'est passé à Hiroshima qui a conduit à Fukushima. Tout ce qu'on n'a pas voulu savoir, tout ce qui a été enfoui à Hiroshima, ressort à Fukushima.
Dans le cadre du 75e anniversaire de la création des Brigades internationales, la SER, amie des combattants en Espagne républicaine et la mairie d'Aubonne dans le 95, organise une cérémonie le samedi 21 mai en souvenir des brigadistes décédés à l'hôpital d'Aubonne. Rendez-vous ce 21 mai à 10h à l'angle de la rue Cristino Garcia et de l'avenue de l'Europe pour honorer ces brigadistes, symboles de solidarité internationale. Vino espagnol en clôture. Merci, au revoir.
Salut Mermet, c'est Le Havre. La semaine prochaine, les grandes semaines se réunissent dans les grands hôtels et casinos à Deauville pour décider de notre vie et de notre monde. Nous, on n'est pas si puissants, on est même petits, mais on est nombreux. Et on veut être nombreux, pas dans les suites de luxe, mais sur les pavés de la rue, pour dire qu'on a des idées, des propositions, et qu'on refuse obstinément les violences sociales, écologiques et humaines qui veulent nous imposer. Alors, on manifestera samedi après-midi dans les rues du Havre, port industriel ouvrier, puis on écoutera des militants du monde entier lors d'un meeting, et on fera la fête ensemble lors d'un grand concert. Le lendemain, on réfléchira, débattra dans 9 forums pour affirmer et démontrer qu'un autre monde est possible. Bref, on manifeste ensemble contre le G8 et le monde qui va nous imposer. Samedi, tout le monde dans la rue au Havre.
Ouais, salut à tous. À l'heure où chacun s'interroge pour savoir si Dominique Strauss-Kahn subit un sort dégradant ou pas, je voudrais vous parler de gens qui subissent un sort dégradant de longue. Ça n'arrête pas. Et donc, il y a des familles roumaines qui sont menacées d'expulsion sur Grasse. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va intervenir. Mais les gens qui sont sur Montsartou, Grasse, Péménade, le canton de Fayence ou les alentours, ben, restez mobilisés, mettez-vous en contact avec la Ligue des droits de l'homme, mettez-vous en contact avec le réseau Éducation sans frontières 06, parce qu'il n'est pas impossible qu'on soit amené à bouger pour protéger des familles dont les enfants sont scolarisés et qui sont menacés d'expulsion sur Grasse. Allez, ciao, viva, portez-vous bien.
Bonjour les AMG, bonjour Mermet. Je veux rebondir sur le propos du monsieur qui parle du rapport entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Effectivement, tous les réacteurs qui ont été construits après 1945 l'ont été dans la perspective de la guerre froide pour produire du plutonium en vue de fabriquer des bombes. Et on est toujours dans cette merde aujourd'hui, en 2011, avec le fameux MOX français dont on nous rebat les oreilles et dont on a les pleins réacteurs à deux pas de chez nous, tout ce temps qu'on est. Voilà, nucléaire civil n'existe pas. Le nucléaire n'est pas civilisé ni civilisable. Voilà, qu'on se le dise fort, fort, fort. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour AMG. Alors je vais vous lire une phrase. Et je vous dirai après qui est-ce qui l'a prononcé. Si c'est un coup monté, évidemment, ça serait critiquable en tant que coup monté. Mais ça ne changerait rien au fait que c'est la 10e ou la 20e des agressions de ce genre. Même si celle-ci se révélait après coup, on n'en sait rien pour le moment, ne pas s'être exactement passé comme on vous le raconte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu 20 avant. Cette phrase, c'est Dominique Strauss-Kahn, interrogé sur les condamnations actives et inopportunes de la jeunesse des banlieues, qui l'a dite le 12 juillet 2004, suite à ce qu'on a appelé l'affaire du RERD. Vous savez, cette fausse agression d'une jeune femme mythomane qui s'était dite agressée par des jeunes de banlieue arabes et noirs, qui soi-disant l'avait violentée avec son bébé de 13 mois. Voilà, c'est amusant hein, de pencher un peu sur le passé.
amusant si on veut, effectivement, on a vérifié. Et ces phrases ont bel et bien été prononcées en juillet 2004 lors de l'agression supposée dans le RERD. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire. Et effectivement, la phrase est la suivante. Si c'est un coup monté, évidemment, ce serait critiquable en tant que coup monté. Mais ça changerait rien au fait que c'est la 10e ou la 20e des agressions de ce genre. Et un peu plus loin, le même continuait en disant « Même si celle-ci se révélait après coup, on n'en sait rien pour le moment. Ne pas s'être exactement passé comme on vous le raconte. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a eu 20 avant. » Voilà. Et c'est effectivement à l'époque Dominique Strauss-Kahn qui a prononcé cette phrase-là. Et comme on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la présomption d'innocence, on voit qu'effectivement, il faut respecter rigoureusement cette présomption d'innocence, mais pour tout le monde et envers tout le monde. Voilà, merci en tout cas pour ça, c'est vraiment du renseignement généreux, bien précis. Merci à tous, merci pour les messages de façon générale. Vous avez compris, aujourd'hui, on est encore, et c'est la fin de ce voyage au Japon, à Hiroshima. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Savez-vous ce que pense le peuple Dogon ? Que l'homme est le gardien de son propre frère. À méditer pour tous ceux qui laissent des messages salaces sur le répondeur de la base si j'y suis. Salut.
Oui, salut tous les AMG, ici Corinne du repère de Caen dans le Calvados. Je vous informe que ce jour, jeudi 19 mai à 20h30, nous allons recevoir Albert Augien qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Pourquoi désobéir en démocratie ?» Vaste débat qui sera partiellement animé par le GANVA, donc groupe anti-nucléaire et non violent, au News, au 15 boulevard Leroy. Bye bye.
Oncalo, voilà, après Fukushima et Hiroshima et toute ta belle série d'interventions et de reportages, peut-être que Daniel, tu pourrais aller là-bas. C'est en Finlande et c'est l'endroit où est en train de se creuser le premier centre de stockage de déchets radioactifs permanents. Oncalo.
Hiroshima, 13 septembre 1945. J'ai reçu la visite d'un employé des affaires générales qui avait la grave responsabilité de veiller sur l'effigie de l'empereur. Il se trouvait dans un autobus au moment de l'explosion. Aussitôt, sans prendre garde au mur qui s'abattait autour de lui, il a couru jusqu'au ministère pour gagner l'incendie de vitesse. Le portrait de l'empereur se trouvait au 4e étage. Avec l'aide de plusieurs collègues, il décida de le transporter au château d'Hiroshima parce que de ce côté, on voyait s'élever moins de fumée qu'ailleurs. Un de ses collègues le chargea sur son dos, un autre prit les devants. Et le cortège se mit en route. Mais lorsqu'ils arrivaient au château, un soldat leur dit que l'incendie menaçait et ils rebroussaient chemin vers les digues de la rivière Ota. Il y avait tant de morts et de mourants sur leur chemin qu'à la fin, ils furent obligés de s'arrêter. Alors ils se mirent à crier « Le portrait de l'empereur !» !»« Le portrait de l'empereur !» Aussitôt, tous ceux qui pouvaient encore marcher ou seulement faire un geste saluèrent et s'écartèrent. Et ainsi, le portrait de l'empereur put miraculeusement passer et être déposé en lieu sûr. Tu l'avais cru détruit par le feu. Cette nouvelle m'a fait chaud au cœur. Le journal de docteur Michihiko Hachiya, 1951.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Guy Van Til. Fukushima, Hiroshima, ce qui devait arriver arriva. On est dans cette petite maison à Hiroshima, on est gentiment reçus par Madame Kouabara. Voilà, c'est une toute petite maison, c'est très sympa, et on a quatre personnes avec nous, trois dames et un monsieur. Ils ont tous ceci en commun, d'avoir été là au moment de l'explosion de la bombe, le 8 août 1945, à 8h15 du matin. Alors, les uns avaient 13 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, c'était donc des enfants ou des gamins, tout au plus. Et puis 66 ans, ils sont là autour de cette table. Voilà, alors Madame Kouabara, vous aviez 13 ans, vous étiez prêt, parce que les témoignages... Il faut situer deux choses quand on est avec des rescapés, c'est l'âge qu'ils avaient évidemment, et à quelle distance de l'hypocentre étiez-vous. Et Madame Kouabara était à 800 mètres.
C'est-à-dire dans un périmètre où plus de 90% des gens sont morts.
70 000 personnes sont mortes à l'instant même où la bombe a explosé. De quoi vous vous souvenez, Madame Kouabara?
Je me souviens tout à fait, il y avait un grand arbre. J'étais juste à l'ombre, derrière cet arbre. Moi, je faisais partie de 12 des élèves. On a entendu sirène, donc on s'était réfugié derrière. On était par terre, assis. Alors, l'impact à ce moment-là. Notre maître annonçait le début de travail à 8 heures, et à ce moment-là, l'avion traversait le ciel au-dessus de notre tête. Et quand l'impact est arrivé sur nous, nous avons été projetés dans un grand trou. Donc on était en dessous des décombres. Regardez, j'ai encore les traces de brûlures.
Sur le bras, les traces des brûlures de 66 ans.
Ici,
aussi, derrière le cou, on le voit moins aujourd'hui, mais la partie gauche de mon corps a été brûlée.
De la mémoire, les brûlures de l'histoire sur le corps de cette femme à Hiroshima avec ses amis Ibakusha, Komel, c'est-à-dire les proscrits, c'est-à-dire les parias depuis 66 ans. Ils sont marginalisés, pestiférés, porteurs de la défaite et aussi du refoulement, de la volonté d'occulter, de cette faculté d'occulter que nous avons. Les Japonais n'en ont pas le monopole. Mais juste après l'explosion de la bombe sur Hiroshima, un comité de censure s'est installé dans les jours qui ont suivi. Et il a été impossible pour la presse de travailler ceci pendant de longues années. Il y a donc eu une coupure, une rupture dans la connaissance qu'on pouvait avoir de ce qui s'était passé là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui a surgi à Hiroshima, c'est une barbarie nouvelle. Une barbarie sans limite, sans frontières, sans précédent. Une panique nouvelle et inconnue jusque-là des hommes. Ce qui remet en cause notre humanité comme espèce humaine. C'est plus seulement la mort qui nous limite et qui nous fait réfléchir, notre mort, la mort individuelle ou la mort collective par accident, par catastrophe ou même par la guerre elle-même. Là, c'est un néant, c'est plus tout à fait la mort, c'est un néant possible, une destruction planétaire. La destruction de la planète devient possible à partir de ce jour-là, de ce 6 août 1945 à 8h15 à Hiroshima. le monde est entré dans une nouvelle panique qui nous poursuit aujourd'hui et qui nous construit et qui nous définit aujourd'hui. Cette panique, c'est assez curieux de vous lire vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis ou sur les mails que vous nous adressez en nous disant « Ah oui, mais non, vous défendez les États-Unis, mais vous savez, ces Japonais étaient un peuple totalement fanatisé. » Et donc vous en concluez qu'il fallait les détruire puisqu'ils étaient fanatisés. Est-ce qu'un peuple tout entier peut être fanatisé? Et si un peuple tout entier était fanatisé, ce qui est évidemment faux, faudrait-il pour autant le détruire totalement, l'éliminer, le rayer de la carte, le faire disparaître? Non, il y a eu là une nouvelle barbarie qui est apparue et qui n'a pas fait l'unanimité. On a cité ceux qui, au fur et à mesure, se sont opposés. Celui qui avait dit, ce physicien qui était présent lors des premiers essais et qui, à l'issue du premier essai, voyant le premier essai, a dit « Maintenant, nous sommes devenus des salauds ». Mais il y a eu aussi des hommes politiques, des personnages éminents, des militaires, des généraux, comme le général Eisenhower, qui allait devenir le président des États-Unis, et qui, tout comme le général MacArthur, ont dit « c'était inutile Hiroshima comme Nagasaki ». Le Japon avait déjà perdu, le Japon était exsangue, le Japon était à plat. Exiger la reddition, exiger la capitulation de l'empereur, de la bouche elle-même de l'empereur, c'était évidemment une exigence sans doute justifiée, mais qui ne justifiait pas ces bombardements. Il y avait d'autres buts, d'autres intentions, la compétition avec l'URSS. Il y avait aussi l'idée, toute simple, de prendre le contrôle de cette région et de faire du Japon un pion stratégique et une terre de développement économique. C'est ce qui s'est produit. Mais ce qui s'est produit là, c'est décidément, et pour jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui, l'idée que c'est la force qui prévaut sur le droit et sur les idées. On est ensemble jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, à Hiroshima. Voilà Monsieur Hiroshi Kakoya, donc, oui. Qui est l'époux de Madame Kakoya. Lui, il avait 7 ans à l'époque et il se trouvait à 3300 mètres du lieu de l'explosion. Oui. De quoi vous vous souvenez?
C'était
la deuxième année de l'école primaire.
Comme
je pensais qu'il n'y avait pas de danger, donc j'étais dans la rue.
Évidemment, il n'y avait pas d'alerte alors.
Je suis sorti avec mes
camarades à l'extérieur.
飛行機の音がしだしたんです。
À ce moment-là, j'ai entendu un bruit d'avion.
それたら南からです。北へ向けてね、B29 が3機来たんです。
Il arrivait trois avions vers nous.
みんなが B29 だって言うてみんなが見たんです。
Ah, c'est l'avion B29. Tous les enfants ont levé la tête.
そうするとね、2機がこう逃げたんですよ。
Les deux avions sont partis.
1機だけまっすぐ行った。
Un seul continuait tout droit.
要するに平和公園のあたりで、
à ce moment-là, quand l'avion est arrivé au-dessus du parc de la paix, il y a eu une explosion.
光が来たんです。
Et un éclat puissant est arrivé sur nous.
その次に来たのが、爆風なんですよ。
Ensuite, l'impact est
arrivé. 何秒か後にね。
Quelques secondes après l'explosion.
爆風が来て、吹っ飛ばされて、飛ばされたんです。みんなが飛ばされた。バーンと。
Tous les enfants étaient projetés.
Ils sont encore quelques dizaines de milliers, ces survivants d'Hiroshima, de l'explosion d'Hiroshima. Est-ce que leurs souvenirs sont si précis ou ils sont comme n'importe qui en proie aux aléas de la mémoire et probablement de la reconstruction de leur récit. Mais ils tiennent absolument à apporter ces témoignages et à exister dans l'histoire. Je le disais en commençant, il faut le dire et le redire, 66 ans après, beaucoup d'entre eux souffrent encore de maux divers dont on ne sait toujours rien. Finalement, on va le voir plus loin dans ce reportage. On ne maîtrise pas, on l'a vu hier avec ce pathologiste que nous avons rencontré. On ne sait pas très bien les suites sur les êtres humains de cette histoire, mais ils tiennent à faire exister au moins cette histoire, alors qu'elle a été, je le disais en commençant, souvent occultée, mise de côté, ou alors uniquement justifiée en disant « Ah oui, mais que voulez-vous ? Il fallait en passer par là, c'est ça qui a permis d'apporter la paix au Japon, et puis voilà, il fallait en finir, c'est la guerre, que voulez-vous ? La guerre, c'est sale, eh bien ça a été un épisode sale de la guerre, et puis ensuite, la paix est arrivée, tournons la page. Ils ne veulent pas tourner cette page. »
Je voudrais dire une chose.
Si
le Japon renonçait la guerre deux mois avant comme l'Allemagne, deux bombes nucléaires ne seraient pas tombées et les îles au nord ne seraient pas envahies par l'URSS.
Les îles Kuriles.
Pour vous, c'est un peu la responsabilité de l'empereur, du général Yamamoto, des militaires japonais qui n'ont pas su capituler à temps.
Non, ce n'est pas si simple que ça.
Parce
que les États-Unis avaient envie de montrer sa force et son pouvoir. C'était une démonstration.
Je pense que c'était Truman,
le président Truman, c'était un raciste. Je pense que c'est sa politique qui a influencé. Je pense que pour utiliser, pour concevoir une nouvelle arme,
Il n'avait aucun
scrupule pour cela. Et aussi, sa préoccupation, c'était l'URSS à l'époque.
The British, Chinese and United States governments,
Harry S. Truman, président des États-Unis,
have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them.
Août 1945.
Les gouvernements britanniques, chinois et états-uniens ont bien mis en garde les Japonais sur ce qui les attendait.
We have laid down the general terms on which they can surrender.
Nous avons établi les conditions de leur capitulation.
Our warning went unheeded.
Nos mises en garde ont été ignorées.
Our terms were rejected.
Et nos propositions rejetées.
Since then, the Japanese have seen what our atomic bomb can do.
Mais depuis, les Japonais ont vu ce que nos bombes atomiques pouvaient faire.
They can foresee what it will do in the future.
Est-ce qu'elles peuvent encore faire dans le futur?
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima
Le monde se souviendra que la première bombe atomique a été lancée sur Hiroshima, une base militaire. Parce que nous voulions, dans cette première attaque, éviter autant que possible la mort de civils innocents. Mais cette attaque était juste un avertissement. Si le Japon ne capitule pas immédiatement, nous bombarderons d'autres installations et, malheureusement, des milliers de civils y laisseront leur vie.
Par rapport à mes expériences
des êtres irradiés, j'ai envie de dire ça, c'est que le nucléaire, c'est quelque chose et il faut laisser dormir. Il ne faut pas réveiller ce pouvoir, cette capacité.
Si je comprends bien, vous êtes tous anti-nucléaires ici. Anti-nucléaire, évidemment, militaire, mais aussi anti-nucléaire civil. C'est-à-dire que pour vous, Hiroshima, Fukushima, c'est non au nucléaire.
Je pense qu'on maîtrisera jamais l'uranium. Donc, un accident inévitable dans l'avenir. Donc, civil ou militaire, c'est pareil pour moi. C'est mon point de vue.
Monsieur Hiroshi, qu'est-ce qu'il dit, lui, sur le nucléaire ?
Je suis opposé à l'utilisation civile aussi.
Je pense que nous avons un dilemme. Est-ce qu'on peut rester dépendant au nucléaire ? Pour moi, cette question a été posée par l'accident de Fukushima.
C'est ça, c'est-à-dire que là, ce que vous dites, c'est que Fukushima pose des tas de problèmes, des tas de questions au Japon, aux Japonais qui sont en train de se demander est-ce qu'on peut s'en passer ? Y a-t-il des énergies alternatives ? Ces énergies alternatives peuvent-elles se développer ? Où on en est avec tout ça ? Tout le monde se pose des questions dans tous les sens. Et les réponses vont venir, parce que c'est, voilà, c'est récent. En tous les cas, il y a une prise de conscience et une réflexion.
Il y a une réflexion.
On peut considérer qu'au moins cet accident nous a permis de questionner. C'est-à-dire que quel choix faire pour l'humanité. C'est ça la question maintenant. Pour moi, l'énergie nucléaire nous oblige de côtoyer la mort.
The signs are that there has been a big release of radiation. A release of radiation.
Already one of the worst nuclear accidents in history if it stops right now.
On est avec le docteur Shuntaro Ida.
Shuntaro Ida.
Alors, j'ai l'impression d'être devant un monument. Hein. Vous êtes vraiment un monument de mémoire et puis un monument aussi
de fidélité et d'engagement à cause d'une chose qui vous est arrivée en août 1945. C'est-à-dire que vous avez assisté à l'explosion de la bombe A sur Hiroshima. À l'époque, vous étiez médecin militaire.
Je suis un médecin militaire. 60年間ずっと見てきて、今まで6000人見たんですよ。
J'ai soigné 6000 malades victimes de bombes de Hiroshima pendant 60 ans.
で、6000人の中にはね、そのもうどうにも助けられない、もう半年の間にこうやられた人がどんどん死んだでしょ。で、そういう人は私のあれで言うと大体1000人ぐらいです。見たのは。
J'ai vu mourir comme ça 1000 personnes en 6 mois.、うん
それからあと生き延びてね、ずっと生きていながらだんだんその放射線の病気で亡くなっていく人が5000人ぐらい。
Et le reste 5000 sont des donc survivants, mais quand même qui sont morts par la radiation à l'intérieur.
Et vous les avez suivis pendant ces 60 ans ?
そうです。
Oui, c'est ça.
94 ans, le professeur Ida Shuntaro est une des grandes figures, une des grandes consciences du Japon et qui, toute sa vie de médecin, il vient de nous le dire, a été consacrée à suivre et à soigner les Hibakusha, les irradiés, les survivants, et aussi à témoigner sur ce qu'il avait vécu comme médecin, les interrogations face à cette panique nouvelle et à ces pathologies inconnues jusque-là, et aussi comme un militant contre le nucléaire, contre la prolifération des armes nucléaires, est toujours présent, toujours constant, et on peut dire toujours vivant, souriant et admirable en somme.
最初の晩ね、へさか村ってのは広島から6キロ離れてるんですよ、ね、でその村に偶然私がいて、それでまあいろんなことになったんだけど、その日の夜ね、広島から逃げてきた患者がね、約6000人なんです。小さな村ですよ、うん、それが3日目の朝にはね、3万人になった。
Dans les villages où j'étais le jour du bombardement, un village à 6 km de la ville de Hiroshima, et le jour même, il y a 6000 personnes qui sont arrivées à pied, et trois jours après, 30 000 personnes qui sont arrivées.
C'est des médecins de cas, hein? 最初の晩はね、偶然そこへ来た軍隊の医者がね、僕入れて4人いたわけだ。
Premier jour, c'était par hasard, il y avait 4 médecins, y compris moi.
4人の医者がね、村中に入ってきた6000人の重症の中でただこうやってるだけ。
Et 6000 morts vivants contre 4 médecins.
Parce que ce que vous racontez dans votre livre, c'est la surprise qui était celle des médecins face aux pathologies qui se présentaient à eux. Vous ne compreniez pas du tout ce dont souffraient les blessés.
あのまず今現在66年経った今も、医学は放射線が体にどういうメカニズムでね、痛みを殺すかとか病気にするか、このメカニズムは今もまだ分かってないんですよ、医学は。
Même maintenant, 66 ans après, la médecine n'a pas compris, n'a pas découvert comment la radioactivité agit sur les organismes.
その理由はね。
Aujourd'hui, avec le recul, 66 ans après, comment vous qualifiez ce bombardement ? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a permis d'arrêter la guerre, de sauver des vies humaines ? Ou bien est-ce que c'est un crime contre l'humanité ?
Pourquoi les Américains ont fait exploser la bombe ? C'était face à la menace de l'Union soviétique.
Hitler a été tué, Stalin a...欧州の戦争が終わって3ヶ月経ったら自分たちは日本に参戦すると、お前が困ってるから助けてやるって言い出したけど。
Alors que Stalin dit, dès que Hitler est tombé, il a dit, dans trois mois, je vais participer, je vais entrer en guerre avec le Japon pour vous aider.
で、実際に彼は、ロシアは、もう日本が負けかかってね、どうにもならん時に、 Manchu de se mettre là.
Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait au moment que le Japon était vraiment à terre. Il est en train de manger.
Surtout l'Amérique va. Japon a attaqué après. Japon a lui-même séparé. Et après, Soviet et Tsuki no Sensou no toki ni wa Asia kara semeru ne.
Alors que l'Américain voulait absolument avoir le Japon, bah, c'était une base stratégique très importante pour ensuite dominer l'Asie entière.
Vous nous expliquez bien qu'il s'agissait d'une course entre l'URSS et les États-Unis pour le contrôle de la région, pour le contrôle du Japon notamment, qui effectivement déclinait et avait perdu après les batailles d'Okinawa. Et c'est la raison d'être de la bombe. Donc il s'agissait bien, vous avez été témoin, vous étiez là, vous aviez 28 ans, vous étiez médecin, vous racontez dans vos mémoires tout ce que vous avez vu. C'est des choses invraisemblables aujourd'hui, ce que vous avez vu. Et les gens que vous avez soignés et comment vous les avez soignés. Je répète ma question, est-ce que vous considérez qu'il s'agit là d'un crime contre l'humanité ?
C'est
un crime absolu contre l'humanité. C'est une bombe pour tuer et même pour les gens qui ont survécu sans donner moyens, sans savoir comment soigner.
C'est-à-dire que c'était en même temps une expérience. On a fait une expérience sur une population civile sans savoir quels seraient les effets sur les populations.
Parce que les civils ont été leurs cobayes, ils voulaient avoir exemplaires des cas des petits-enfants, des femmes enceintes, des femmes, des hommes, de tous les âges, de deux sexes différents. C'était pour avoir des exemples.
Controverse continue, toujours aujourd'hui, sur l'intention et le sens d'Hiroshima, de Hiroshima Nagasaki. Fallait-il lancer ces bombes ? Il faut dire quand même que l'histoire a fait son chemin, la mémoire a fait son chemin vers la vérité, vers la conscience, et que la part, le camp de ceux qui justifient et qui soutiennent est de plus en plus déclinant. Mais il y a eu des prises de conscience extrêmement fortes, notamment celle de Howard Zinn, notre ami l'historien américain Howard Zinn, l'auteur de l'histoire populaire des États-Unis. Dans ses mémoires, il nous l'a raconté aussi à nous, vous vous souvenez, Howard Zinn était pilote de bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a notamment était l'un des pilotes qui a bombardé la ville de Royan en France. Et il nous a expliqué comment il a été l'un des premiers à utiliser le napalm. Le napalm a été utilisé, selon Zinn, pour la première fois en France sur Royan. Mais ensuite, il y a eu, au même moment à peu près, j'ai pas les dates précises à l'esprit très franchement, au même moment ça a été Hiroshima. Et Howard Zinn faisait partie de ces Américains qui étaient heureux et qui disaient « c'est formidable, la guerre est finie, les petits gars vont revenir au pays, c'était une fête formidable aux États-Unis ». Et puis, peu à peu, il a compris ce qui s'était passé à Hiroshima et à Nagasaki, et ça a fait de lui Howard Zinn.
At the time the bomb was dropped on Hiroshima, I did not question it. I like everybody else, I thought, oh, this is a good thing. The war will be over.
Au moment où il y a eu les bombardements sur Hiroshima, moi, je me suis pas remis ça en question. Je me suis dit, ah, bah, c'est une bonne chose. Grâce à ça, la guerre va s'arrêter.
Because I had no idea what the atomic bomb did to human beings. I had no idea what it was like to be the victim of bombing, because I had been bombing from 30,000 feet high, where you saw nobody. You did not see people screaming, children. And so killing in modern warfare can be totally antiseptic, clean-cut.
C'est que tuer dans les guerres modernes, ça peut devenir complètement aseptique, complètement propre. Et tout ça parce que moi, la position que j'avais dans mon bombardier, c'est que j'étais à 30 000 pieds de hauteur et je n'avais qu'à larguer les bombes et je n'avais aucune perception, aucune vision, même aucune conscience des corps déchirés, des hurlements des populations et plus encore si c'était une bombe atomique.
But then I read John Hersey, American journalist. I read his report on talking to the victims of Hiroshima.
Et après, j'ai lu sur un journaliste américain, John Hersey, qui avait fait un reportage où il était allé à la rencontre des victimes d'Hiroshima.
And then for the first time, I realized what bombing does to human beings.
Et c'est là où j'ai vu pour la première fois ce qu'un bombardement peut faire à des êtres humains.
And when I read John Hersey's report, talking to the survivors, I for the first time understood what my bombs did to people below.
Et quand j'ai lu le reportage de John Hersey qui était allé parler aux survivants, à ceux qui avaient subi ce bombardement, pour la première fois, j'ai réalisé ce que mes propres bombardements avaient provoqué sur les populations.
20 years later, I visited Hiroshima and I was asked to speak to a group of survivors. They met regularly in some little survivor's house.
Et 20 ans après, je devais aller à Hiroshima, j'étais invité à Hiroshima pour parler devant un public de survivants, dans leur petit local, des survivants du bombardement.
And when I got up to speak to them, and I looked out at them, and I saw these people who had arms missing or legs missing, or skin that you couldn't look at, I couldn't speak.
Et quand j'ai vu ces gens en face de moi, sans peau, sans membres, aveugles, j'arrivais plus à parler.
After the war, I did some research into the bombing of Hiroshima, because everybody was saying it was necessary. We had to do this in order to win the war.
Et c'est pourquoi après la guerre, j'ai fait des recherches justement sur les raisons qui amenaient à son bombardement d'Hiroshima, parce que tout le monde disait c'était un mal nécessaire. Il fallait passer par là pour mettre fin à la guerre.
And my research made it clear to me that the bombing of Hiroshima, Nagasaki, were not necessary to end the war.
Et c'est là que j'ai appris, c'est là que je me suis aperçu que le bombardement d'Hiroshima, comme celui de Nagasaki, n'était pas nécessaire. On n'avait pas besoin de ça pour mettre fin à la guerre.
And there were other reasons, political reasons, for dropping the bomb, which did not have to do with winning the war, but with, you might say, winning the Cold War.
Et les raisons qui avaient présidé à ces bombardements n'avaient rien à voir avec la guerre. Ça avait plutôt à voir avec gagner la guerre froide qui s'annonçait déjà.
Because it seemed that we were anxious to drop the bomb before the Russians got into the war.
Puisque dans les raisons qui ont provoqué ces bombardements, c'était finir ce conflit avant que les Russes viennent sur ce front-là aussi.
To demonstrate our power to the Soviet Union.
Pour montrer notre puissance à l'Union soviétique.
Yeah, because what I discovered in my research was the Japanese were on the verge of surrender, even if we had not dropped the bomb. The Japanese would have surrendered very soon.
Parce que ce que je me suis aperçu dans mes recherches, c'est que les Japonais étaient vraiment à deux doigts de capituler. En tout cas, la bombe n'était pas nécessaire pour les faire capituler. Ils étaient sur le point de le faire.
I mean, today we condemn terrorists because terrorists are willing to kill innocent people in order to achieve some objective of their own. We condemn them. But in World War II, we killed probably a million civilians in our bombing. And that's something I think that cannot be accepted.
Vous savez, on critique les terroristes aujourd'hui parce qu'ils tuent des civils innocents pour des objectifs supérieurs. Mais nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dû tuer plus d'un million de civils pour des raisons de guerre plus valables.
In other words, war is terrorism.
En d'autres termes, la guerre est le terrorisme.
Hiroshima, Nagasaki, Alamogordo, Bikini.
I'm gonna preach y'all a sermon about old man Adam, that's me. I don't mean the Adam in the Bible, Adam. I don't mean the Adam that Mother Eve elated. I mean the thing that science liberated. The thing that Einstein says he's scared of. And when Einstein's scared, brother, you'd better be scared. If you're scared of the Adam, here's what you gotta do. You gotta gather all the people in the world with you, cause if you don't get together and do it, well, first thing you know, I'm gonna blow this world plumb too.
Hiroshima, Nagasaki, Alamogordo, Bikini.
Now, life used to be such a simple joy. My cyclotron was just a super toy. And folks got born, they'd work and marry. And Adam was a word in the dictionary. And then it happened. The science boys from every clime, they all pitched in with overtime, and before they knew it, the thing was done, and they'd hitched up the power of the God-earned sun and put a harness on old Sol, splitting atoms while the diplomats were splitting hairs.
Hiroshima, Nagasaki, Alamogordo, Bikini.
Pour la seconde fois, l'obscurité est tombée et il me semble que moi-même je passe la porte de la nuit. Peu à peu, ma capacité de ressentir l'immensité du désastre s'est émoussée. On s'habitue à tout, même à l'horreur. À la fin du deuxième jour, nous, les survivants d'Hiroshima, nous nous sentons déjà chez nous dans cet empire du chaos et du désespoir. Le journal de docteur Mitich Koratia, 1951.
Moi, j'ai été très choqué par le musée d'Hiroshima, parce qu'il y a beaucoup de documents très précieux et très bien présentés dans ce musée d'Hiroshima. Mais la conclusion, c'est à quelque chose malheur est bon. Cette bombe a permis au Japon de rentrer dans une ère de paix.
Docteur Shuntaro Ida, médecin à Hiroshima.
Coup
de mensonge, parce qu'il y a, vous savez qu'ici au Japon, il y a un lobby pro-nucléaire. Ils ont une ambition, les hommes politiques ont une ambition de réarmement avec la bombe atomique. Et le ministère de l'éducation japonaise a continué à faire la propagande auprès des enfants dans l'éducation. Le résultat du sondage des petits-enfants qui entrent dans la classe de CP, il n'y a que 40% des gosses qui savent qu'il y a eu des bombes atomiques dans cette ville.
それでその4割の子供にね、じゃあ原爆は誰が落としたんですかっていうと、7割ぐらいはロシアだっていう。
Et puis, la deuxième question, et vous savez qui a mis la bombe? La 70% des gosses répond, les Russes.
それぐらい日本は反共教育がすごいんですよ。
Voyez, c'est le résultat d'éducation anticommuniste.
Septembre 1945. Cet après-midi, nous avons eu la visite de deux groupes de soldats américains. Les premiers ont examiné avec beaucoup d'attention tout ce que je leur ai montré. L'un de ces soldats doit être maître d'école dans le civil, parce que chaque fois que j'essaie d'expliquer quelque chose dans mon mauvais anglais, il me reprend pour corriger ma prononciation. Les seconds ont amené un interprète. L'un d'eux, debout devant une fenêtre, dit tout à coup : « Et vous, que pensez-vous du bombardement ? » Je suis un bouddhiste, lui ai-je répondu. Et depuis l'enfance, on m'a appris à me résigner. J'ai perdu mon foyer et ma santé, mais je me considère comme un homme fortuné, puisque ma vie et celle de ma femme ont été préservées par le ciel. Je ne puis partager vos sentiments, dit alors le jeune américain d'un air sombre. À votre place, il me semble que je ferai au pays responsable un procès en dommages et intérêts. Il reste encore un long moment à contempler nos ruines par la fenêtre avant de s'en aller. Longtemps après, il m'a semblé l'entendre encore parler, faire un procès au pays, faire un procès. J'ai eu le sentiment que ces mots demeureraient pour moi à jamais incompréhensibles. Le journal de docteur Michihiko Hatia, 1951.
Comment on fait pour vivre jusqu'à 94 ans, comme vous le faites là, en rigolant avec tous vos moyens? Quel est le secret?
J'ai un sang chaud, comme on dit en Japon. J'ai fait ce que j'ai envie de faire.
J'ai jamais
baissé la tête devant ce qui... Socialement, je suis un égoïste.
J'étais
allé voir MacArthur avec des grenades. Je voulais l'assassiner.
Ah, c'est une bonne idée.
Et que les amis m'ont empêché. J'ai pas peur de mourir.
Avons vu à Hiroshima, il faudrait continuer, c'est un sujet énorme. On aurait pu parler de Claude Etherly, ce pilote d'un des avions de reconnaissance qui a précédé le largage de la bombe. Il était l'un des pilotes de cet avion et c'est lui, c'était un avion de la météo et il a donné son accord pour le bombardement. Et ensuite, ce type a eu une vie extraordinaire de prise de conscience. Sa vie est devenue terrible. Il a tenté de se suicider. Il a fait des attaques à main armée. Il devenait complètement fou, complètement dingue. Et le gouvernement américain essayait toujours de le faire taire. Et puis finalement, il a eu un long échange de correspondance avec un philosophe allemand qui s'appelle Günther Anders, qui a beaucoup réfléchi et beaucoup pensé cette Hiroshima. Et peu à peu, Claude Etherly est devenu à la conscience et devenu un militant pour la paix et pour la vérité sur ce qui s'est passé à Hiroshima. Merci à tous, c'était un reportage avec Guy Van Thiel. Merci à nos traductrices, Atsuko Ushioda, Yoruko Nishinaka,
Yuki Takahata. C'est Agnès Lebot et Marina Touyez qui ont monté cette série d'émissions. Merci aussi à Michel Quintana, Colin Kobayashi et Toshiki Mashimo. Merci au docteur Ida Shuntaro et Miyato, à Sasaki Keiko, à Madame Kuwabara et à ses amis. Merci à Sego Nishioka, Shoji Kihara, Okamoto Mitsuo, Nakanishi Iwao, Bun Hashizume et Takeo Tanaka, ainsi qu'à Yamato Sadao, Shimizu Toshiyazu et Kiyosuke Sasaki et Ito Minoru et son épouse et aux habitants d'Hidate et aux réfugiés de la région de Fukushima. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez, vous devez la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Arnaud Chapat, Koy Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette série. Agnès Lebot nous assiste et Marina attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Attention, mardi dernier, le jackpot Euromillions n'a pas été gagné. Ce vendredi, il atteindra près de 25 millions d'euros. Voir règlement sur fdj.fr.
Euromillions, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Oh dis donc, t'as une petite mine.
C'est mon divorce. Déjà qu'entre mon ex-mari et mon ex-situation familiale, c'est compliqué. Alors avec une double déclaration de revenus à faire, je gère plus rien.
Pour ton ex-histoire d'amour, je sais pas, mais pour le reste, le plus simple, c'est encore Internet. Tu peux faire tes deux déclarations sans te déplacer.
Extra!
Mariage, PACS, divorce, décès d'un proche, changement de revenu, déclarez sur impots.gouv.fr, même lorsque votre situation a changé. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Excellent!
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
France Inter, partenaire de l'Atlas des religions, un hors-série Le Monde, la vie. Riche de 200 cartes originales et d'analyses de nombreux experts, ce nouvel atlas entièrement actualisé dresse le panorama des religions sous tous leurs aspects, à travers le monde. Un hors-série pour mieux décrypter l'actualité internationale et disposer de clés pour comprendre le fait religieux. L'Atlas des religions, une publication Le Monde, la vie, à lire en ce moment et à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter et le Théâtre de la Madeleine présentent jusqu'au 17 juillet Fin de partie de Samuel Beckett.
Est-ce qu'il marche ? Le réveil !
Mise en scène par Alain Françon avec Jean-Quentin Châtelain, Serge Merlin, Michel Robin et Isabelle Sadoyan.
Est-ce qu'il marche ?
Pourquoi ne marcherait-il pas ?
D'avoir trop marché !
Mais il n'a presque pas marché !
Alors d'avoir trop peu marché !
Je vais voir.
Retrouvez Fin de partie dans les émissions de France Inter.
Magnifique pièce, un fun party de Samuel Beckett. On se retrouve demain à 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Florence Paracuelos. Salut!
Prié de se faire tout petit, voire de quitter Cannes, Lars von Trier est persona non grata au festival avec effet immédiat. C'est un conseil d'administration extraordinaire convoqué par Gilles Jacob qui a décidé de cette sanction. Hier, en conférence de presse, le cinéaste danois a fait part de sa sympathie pour Hitler en ajoutant, je cite, qu'Israël fait chier. Il se retrouve aujourd'hui sanctionné. Pour autant, son film Mélancolia reste en compétition officielle. Ça veut dire que si jamais il reçoit la palme ou un prix, il est prié de ne pas venir la chercher. Une de ses productrices fait savoir qui l'accepte la sanction. Renault a commis une faute inexcusable, confirmation de la cour d'appel de Versailles. Il y a 5 ans, un de ses ingénieurs s'était jeté par une fenêtre du technocentre de Guyancourt. Aujourd'hui, la justice estime que Renault avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié au regard de sa charge de travail. Le constructeur a 2 mois pour faire appel devant la cour de cassation. Alors que la bataille de succession à la tête du FMI ne fait que commencer, Dominique Strauss-Kahn attend l'audience de sa deuxième demande de remise en liberté. Il devrait être fixé après 20h heure de Paris. Ses avocats ont mis cette fois toutes les chances de leur côté pour faire pencher la balance. Ils promettent que DSK renoncera à son droit d'extradition, qu'il versera 1 million de dollars de caution et qu'il restera assigné à résidence à New York sous surveillance électronique. C'est donc peut-être libre que Dominique Strauss-Kahn apprendra demain s'il est oui ou non inculpé officiellement dans ce qu'on peut maintenant appeler le Sofitel Gate. En Syrie, la ville de Tal Kalak est pilonnée depuis hier par l'armée. Le siège de cette ville de 70 000 habitants dure depuis 5 jours. Il a fait au moins 34 morts, selon les défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement syrien qui fait fi des dernières sanctions américaines, le gel des avoirs de Bachar el-Assad et de ses proches. Cette décision n'a pas affecté et n'affectera pas les choix de la Syrie et sa fermeté, disent les autorités. Ce qui va probablement évoluer, en revanche, c'est la politique arabe et proche-orientale de l'administration américaine. Barack Obama fera tout à l'heure un discours sur les printemps arabes et les révoltes réprimées dans le sang. Il devrait notamment annoncer une aide économique pour aider les transitions démocratiques en Tunisie et en Égypte. Enfin, tout ce vol, c'est bien connu. En Pologne, la police a interpellé 2 hommes qui avaient volé dans un dépôt 12 tonnes d'escargots destinés à la France. Les cambrioleurs ont dû faire moult aller-retours pour transporter le butin de 350 000 mollusques en cagette. Ça doit en faire un certain nombre.
Tous les jours,
oui.
À partir de 11h...
Si on a des grosses fesses, on va vivre vieux.
Le fou du roi.
Il faut être maigre avec un gros cul.
Stéphane Bern.
C'est vrai pour les femmes.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Paul-Henri Mathieu et Stéphane Marie, rendez-vous demain vendredi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Ah, je suis pas du tout d'accord.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui, bah oui, oui, oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Une très bonne après-midi à 16h04 sur France Inter, c'est le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Florence. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Encore un sondage, une enquête, ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de politique. Il s'agit d'un beau sondage de 6 mois qui a été fait par des magasins d'accessoires britanniques auprès de clients automobilistes qui montre que 60% des conducteurs se sentent influencés par la musique qu'ils écoutent. Alors certains airs comme par exemple Sabotage des Beastie Boys ou alors un certain prélude de Rachmaninoff peuvent rendre les conducteurs agressifs au volant, alors que les 4 saisons de Vivaldi par exemple ou Yellow de Coldplay en dehors de la musique classique, les aide à se montrer plus courtois. Ben voilà, on va rester courtois tout de suite avec un allegro tiré d'un concerto en do majeur pour 2 hautbois, 2 clarinettes, cordes et basses continues d'Antonio Vivaldi.
Thank you.
Eh oui, c'est bien guilleré, on irait bien dans une décapotable, mais tranquillement, à travers les champs de blé, je ne sais pas. Quelque chose de pastoral, en tout cas, aussi. Et c'était Antonio Vivaldi, interprété par l'orchestre baroque Zeffiro, dirigé par Alfredo Bernardini. Et j'ai donc dit que le prélude de Rachmaninov, hein, c'est écrit dans l'enquête récente sur les comportements des automobilistes, et le prélude en ut dièse mineure rendrait agressif. Je ne sais pas pourquoi, parce que la musique de Rachmaninov est certes quelquefois dépressive, quelquefois très active, sombre, mais enfin agressivité, on n'en sent pas tellement. Néanmoins, on va entendre une belle version d'un pianiste qui gagnerait à être plus connu encore, Eldar Nebolsin.